Donc on pourrait dire mon propos porte sur la justice, ses confins, ses alternatives, et j'essaye de ranger ça en trois directions: venger, pardonner ou juger. Y a-t-il moyen, oui ou non, de mettre un peu d'ordre dans ces différentes options, ces différentes attitudes et je fais le pari, dans le cadre effectivement du courant droit et littérature, que la littérature, l'imaginaire littéraire peut nous aider à concevoir et à préciser ces figures, leurs possibilités, leurs apories. Je le ferai aussi sur fond d'une mise en place philosophique à partir d'un de mes auteurs préférés, qui est le français Paul Ricoeur, qui proposait une double distinction. La première est bien connue, c'est celle qui départage justice privée et justice officielle, pour nous, étatique. Je rapporterai, j'y viens dans un instant, cette distinction hyper classique aux réflexions de Ricoeur concernant la triangulation des différends qui oppose Pierre et Paul, je et tu, par l'intervention du « il », l'instance tierce de la loi et de ses représentants. Ma seconde distinction est également inspirée de Paul Ricoeur, qui, lorsqu'il réfléchissait à la fin de sa vie, en rapport avec Antoine Garapon, que Julie connaît bien, à l'Institut des hautes études sur la justice à Paris, Paul Ricoeur faisait cette double, enfin, avait une double conception des fonctions de la justice, une courte et une longue, qui vient aussi dans un instant. La fonction courte est une fonction de répartition, la fonction longue, une fonction d'assurer la participation. Ce faisant, il y a un point dont je ne parlerai pas et qui est pourtant important, qui est presque en amont de la juridiction, c'est, je dirais, la véridiction. On attend aussi de l'œuvre de justice qu'elle se positionne par rapport au vraisemblable, au vrai, qu'est-ce qui est établi, qu'est-ce qui est prouvé. C'est un champ immense de recherche, j'y ferai de timides allusions, mais je reconnais que je ne traite pas de front cette question. Ma double distinction me permet de proposer une grille d'analyse que vous avez sous les yeux, une grille d'analyse qu'un parcours buissonnier au sein de la littérature et sans précaution de temps et d'espace, et je m'en excuse d'avance, ce côté un peu cavalier par rapport aux spécialistes, donc un parcours buissonnier au sein de la littérature devrait permettre donc d'illustrer, mais aussi de nuancer, de subvertir, d'enrichir. C'est que les œuvres de fiction ne sont pas là pour être simplement des étiquettes ou des illustrations de thèses toutes élaborées. Je pense au contraire que c'est la littérature qui donne à penser, et puis surtout elle livre un infini dégradé de situations entre mes modèles un peu rigides, un dégradé de situations qui complexifie bien sûr les partages théoriques que je propose. Donc je commence par ma mise en place philosophique, avant de commencer l'inventaire même du tableau, et la double distinction de Ricoeur. Je commence par une citation de Ricoeur. « L'acte fondamental par lequel on peut dire que la justice est fondée dans une société, c'est l'acte par lequel la société enlève aux individus le droit et le pouvoir de se faire justice à eux-mêmes. Par cet acte s'opère le passage constitutif » de ma première distinction, constitutif passage donc de la vengeance privée à la justice publique ou instituée. Je précise pour les historiens du droit parmi vous que ce passage est évidemment graduel. C'est pas fait en un jour, loin de là. Et, plus intéressant, ce passage n'est jamais entièrement consommé, au sens où la justice publique s'arroge nécessairement une part de la violence inhérente au règlement vindicatoire. Et le règlement vindicatoire qui lui-même ne se réduit pas au déferlement pur et simple de la violence. Si vous lisez de la littérature ethnographique ou anthropologique, il y a toute une réhabilitation, aussi même les commentaires de la tragédie grecque, diké voulant dire à la fois justice et vengeance. Donc il ne faut pas verser dans une espèce de partage manichéen entre la bonne justice du tiers et la mauvaise justice de la vengeance. Tout ça est graduel et le passage n'est jamais consommé. Néanmoins, quelque chose se passe évidemment quand on passe de l'un à l'autre. En imposant le principe selon lequel nul n'est habilité à se faire justice à lui-même, la société triangule les contentieux, le contentieux qui oppose un « je » à un « tu », elle le triangule au sens où désormais un « il » s'interpose entre les protagonistes. Le « il » ou l'instance tierce du juge, appelé à l'impartialité, je ferai beaucoup de jeux de mots sur l'idée de « part », donc ici l'impartialité, cette intervention contraint les parties à verbaliser leurs prétentions, on se tape plus sur la figure, on est obligé de s'expliquer, ça implique toujours, ne serait-ce qu'un peu de gain de temps, refroidir les passions, et tout ça force évidemment les parties à se rapporter à une loi commune, à une référence commune qui est censée faire lien social. Ainsi donc, l'institution d'un appareil institutionnel judiciaire, hein, les cours et tribunaux, qui a mis des siècles à se mettre en place en Europe, ne relève pas seulement d'une logique institutionnelle, mais plus fondamentalement procède de cette logique anthropologique dont la littérature se fait l'écho. L'idée d'interposer ce « il » entre le « je » et le « tu ». Ma seconde distinction est relative cette fois aux deux fonctions qu'on peut attribuer à l'acte de juger. Au terme d'une sorte de phénoménologie du jugement, Ricoeur distingue une finalité courte, je cite, « en vertu de laquelle juger signifie trancher en vue de mettre un terme à l'incertitude ». À quoi il oppose une finalité longue, je cite, à savoir la contribution du jugement à la paix publique. Dans le premier sens, ce qu'on appelle un arrêt, la décision est un arrêt, mais un terme, effectivement, un débat virtuellement interminable, par une décision qui deviendra définitive par l'écoulement des délais de recours, une décision à l'exécution de laquelle la force publique prête son concours. Ce faisant, le juge aura rempli une première fonction. Il aura attribué la part, jeu de mots sur la part, donc la part qui revient à chacun, en application du vieil adage par lequel les Romains désignaient le rôle du droit, sum cuique tribuere, attribuer à chacun le sien. Le juge aura attribué des parts, ou rectifié des parts, indûment accaparées par l'un ou par l'autre. Fonction civile ou fonction pénale, ce n'est pas le problème ici. En un mot, il aura départagé les parties. Il opère ainsi comme une institution essentielle de cette société que John Rawls présentait précisément comme un vaste système de distribution de parts. En ce premier sens, juger, c'est donc l'acte qui sépare, l'acte qui départage. Et on peut rappeler de façon très classique que, en allemand, le jugement se dit « Urteil » et la « Teil », c'est justement la part, la partie. Mais, c'est la fonction longue alors. L'acte de juger ne s'épuise pas dans cette fonction seulement séparatrice ou répartitrice. S'il est vrai que plus fondamentalement, l'acte de juger se produit sur un arrière-plan de conflit social et de violence larvée, il faut bien que le procès et le jugement qui le clôture poursuivent une fonction plus large d'alternative institutionnelle à la violence, à commencer par la violence de la justice qu'on se fait à soi-même. On verra des exemples de tribunal de la conscience, souvent plus cruel que le tribunal public. Dans ces conditions, ajoute encore Paul Ricoeur, je le cite, il apparaît que l'horizon de l'acte de juger, c'est finalement plus que la sécurité, c'est la paix sociale, l'harmonie, la concorde. Pas seulement la pacification provisoire qui résulte d'un arrangement imposé par la loi du plus fort, mais une harmonie rétablie du fait qu'une reconnaissance mutuelle s'est produite. Chacun des protagonistes, quel que soit le sort de son action, demandeur ou défendeur, civil ou pénal, chacun doit pouvoir admettre que la sentence n'est pas un acte de violence, mais un acte de reconnaissance, plus ou moins réussi, jamais totalement, de reconnaissance des points de vue respectifs. Si on parvient à ce niveau, on s'est élevé à une conception supérieure de la société. Elle n'est plus comme chez Rawls simplement un schéma de distribution de parts, elle devient un schéma de coopération. Par la distribution, mais au-delà de la distribution, par la procédure, mais au-delà de celle-ci, en vue de quelque chose, ne sombrons pas dans l'idéalisme, mais de quelque chose comme une visée de bien commun qui pourrait faire lien social. En résumé, le partage judiciaire, c'est tout à la fois l'attribution de parts qui sépare et ce qui nous fait prendre part à la même société, c'est-à-dire ce qui nous rapproche. Donc de la répartition pourrait, dans les meilleurs cas, surgir une propriété émergente, plus importante que la part qui échoit à chacun. Propriété émergente qui est la coopération relancée. Ainsi se marque un continuum de l'un à l'autre, marqué par plusieurs seuils qualitatifs. La vengeance s'arrache à la violence pure et simple par le souci d'une équilibration des préjudices, un œil pour un œil, une dent pour une dent. La justice à son tour se détache par la vengeance, tout en conservant cependant un élément de celle-ci, c'est la recherche d'un équilibre compensatoire. Elle s'en sépare cependant par le fait qu'elle relève désormais de l'instance du tiers, le tiers public, qui s'interpose entre les protagonistes. Et puis dans les meilleurs des cas, il peut arriver que cette justice tente vers l'instance pacificatrice du pardon lorsqu'elle remplit sa deuxième fonction de retissage du lien social. Enfin, finalement, le pardon se sépare lui-même de la justice dans la mesure où il cesse de relever d'une logique compensatoire pour s'inscrire dans une logique de l'excès, du don, de l'abandon, du pardon, une logique de la gratuité et ultimement de l'amour. Et je terminerai dans la conclusion par un tableau, si vous voulez, en cinq positions allant de la violence à l'amour en passant par la vengeance, la justice et le pardon. Le tout avec un clin d'œil au passage aux trois allégories qu'on associe d'habitude à la justice, que tout le monde connaît bien sûr, le glaive, la balance et le bandeau. Je me demanderai comment distribuer ces trois allégories par rapport à la typologie que je propose. Mais entre-temps, j'en reviens à mon tableau à double entrée. J'en fais une brève présentation avant d'en faire un examen analytique. Donc, je croise un axe vertical qui distingue justice instituée et justice privée avec un axe horizontal qui rend compte de la présence de l'une ou des deux fonctions de l'acte de juger, soit encore du défaut de l'une et de l'autre. Ce qui, si je compte bien, distingue huit figures. Une fois analysées, les figures 1 et 2 visent le modèle idéal, d'une justice idéale, qui combine le juste partage des parts avec la fonction d'intégration ou de restauration de la paix sociale. On pourrait évoquer, mes exemples valent ce qu'ils valent, hein. Mon tableau n'est pas exhaustif et les exemples peuvent toujours être améliorés. Enfin voilà, j'ai pensé aux Euménides d'Échille sur le plan public, Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ pense en rapport étroit avec son droit positif qui est en train de changer le passage donc, de la vengeance à la justice. Et puis, plus récemment, j'ai songé aussi, quelque chose qui est peut-être moins connu, moins étudié, le Cycle de Corneille, qui rapporte une intéressante histoire de duel judiciaire, débouchant finalement sur le pardon, dans un contexte historique très de transition, un contexte d'intrication des justices publiques et privées, les duels féodaux et la justice du roi qui se met en place. Les figures 3 et 4, qui visent des formes de justice publique et privée, préoccupées seulement de compensation des torts, c'est la fonction courte. Elles relèvent du simple équilibre du statu quo. L'ordre social a été troublé par une faute ou un dommage qu'il s'agit de réparer. Un mal pour un mal, tant pour tant. Alors, la littérature est assez sévère à l'égard de cette figure de la justice que nous considérions comme le tout venant de la justice. Vous allez voir dans les exemples que je traite, elle considère finalement que c'est une façon de préserver le statu quo et que le mal finalement s'entretient. La figure 4, vengeance privée, est particulièrement bien documentée, comme vous vous en doutez, en littérature, avec notamment une variante importante, la justice que l'on se fait à soi-même. Les figures 5 et 6 illustrent quant à elles un modèle du pardon qui est plus fréquent dans le registre privé que dans le domaine public. Un tel modèle ne se caractérise plus par l'équilibre, le donnant-donnant, la compensation, mais au contraire par le surplus, excès du don. On s'affranchit donc de la logique du donnant-donnant pour arriver à cette propriété émergente de la restauration du lien social. Finalement, les figures 7 et 8 décrivent cette fois l'absence des deux fonctions attachées à l'acte de juger, traçant ainsi le modèle d'une justice en défaut ou déni de justice. La littérature s'avère ici particulièrement riche, tant dans l'ordre public, avec le portrait de toutes sortes de juges partiaux ou vénaux, que dans l'ordre privé, avec une sorte de descente aux enfers ou de crescendo dans la dénaturation qui culmine dans les récits de justice perverse que l'on trouve à chaque page du marquis de Sade. Voilà, alors on peut se lancer dans le travail. Mes figures 1 et 2, donc, qui dessinent une sorte de modèle idéal qui ferait se rencontrer les deux fonctions dont nous avons parlé. Les Euménides d'Eschyle, tragédie écrite en 460 avant notre ère, représente un exemple littéraire de ce passage avec un imaginaire littéraire qui vient à l'appui de la toute récente fondation à Athènes de l'Aréopage, qui, à partir d'un fait divers pas banal, le dossier Oreste, qui est un matricide, parvient à inverser la logique à laquelle le public athénien s'attend. La logique, c'est que un crime de sang appelle la vengeance familiale avec le coup de pouce des Érénies, donc qui sont, comme vous savez, les justicières à la longue mémoire, qui n'oublient rien, les yeux injectés de sang, et qui poursuivent jusqu'à la folie, à la mort, les auteurs de crimes de sang, et particulièrement les matricides comme Oreste. Athéna s'interpose, donc le tiers. Expliquez-vous, qui êtes-vous, quels sont vos motifs? On va plaider sur la base d'arguments qui deviennent des arguments rationnels et plus seulement des imprécations, comme dans un langage magique. Ce n'est plus seulement « tu es un homme mort » ou « je te maudis », c'est « oui, j'ai un grief contre vous, mais expliquez-vous, quelles sont vos prétentions ?» Et le tout se conclut par des votes, donc ce qui dessine un rapport de force, avec le coup de pouce d'Athéna, d'ailleurs, qui va ajouter sa voix aux 50% qui avaient voté l'acquittement, et ce coup de pouce acquitte Oreste. Donc là, c'est vraiment la pensée d'une justice qui devient une justice moderne, basée sur des arguments rationnels et des votes. Bon, ça c'est assez connu, peut-être un tout petit peu moins connu, c'est la deuxième partie de la pièce. Il faut éviter que les Érénies ne perdent la face. Oui, c'est ma fonction longue là qui est mise en œuvre. Athéna se rend compte qu'elle n'a fait que la moitié du chemin, parce que si les Érénies ayant perdu la face dans ce procès, si elles perdent leurs compétences sur les crimes de sang, elles vont se venger, comme elles le menacent par la peste et le choléra qui intervient toujours dans les tragédies grecques lorsque les dieux ne sont pas contents. Et alors, elle met en œuvre tout son charisme, en grec la peito, qui est la grâce persuasive, la rhétorique. Et c'est très long, plus de 160 vers, une plaidoirie très très longue. Elle utilise toutes sortes d'arguments. Et elle aboutit finalement au résultat que les Érénies se laissent convaincre. Et le langage alors change tout au tout, les imprécations deviennent des bénédictions et elles deviennent les déesses protectrices de la cité, ce dont atteste un changement de nom, puisque des méchantes Eurénies, elles deviennent les gentilles Euménides. Voilà, donc ça, me semble-t-il, si on insiste sur cette deuxième partie de la pièce, on voit, me semble-t-il, les deux aspects, les deux fonctions de Paul Ricoeur. C'était pas tout de départager les torts, encore fallait-il qu'aucune des deux parties ne se sente complètement dépossédée, lésée, non reconnue en quelque sorte dans l'affaire. Alors je pourrais consacrer aussi quelques mots au site écrit par Corneille en 1637, qui illustre dans le domaine de la justice privée, mais une justice privée mal dégagée cependant de la justice publique du roi, à une époque où le pouvoir du monarque sur les grands du royaume s'affirme, ou tente de s'affirmer de plus en plus nettement. Donc, pièce qui illustre le cumul des deux fonctions de la justice. à la compensation judiciaire succède en effet le pardon. Il s'agit de, pour Chimène, de pardonner à Rodrigue, pardonner d'avoir tué son père. Pardon facilité, il est vrai, par la passion amoureuse qui réunit les deux protagonistes, en dépit de leurs protestations, facilité aussi par la pression du roi désireux de conforter la concorde civique et désireux d'éviter que son champion, Rodrigue, ne perde la vie. Il en a bien besoin pour défendre son royaume. Donc, on se souvient des ressorts principaux du récit. Poussé par un devoir d'honneur, Rodrigue tue en duel Don Gomez, qui avait outragé son propre père. Le devoir est austère, tragique même, dans la mesure où Don Gomez n'est autre que le père de Chimène, l'amante, au sens du XVIIe siècle, comprenons l'amoureuse, de Rodrigue. Le roi de Castille, Don Fernand, serait enclin au pardon, d'autant que Rodrigue vient, au cours de la même journée, de remporter une grande victoire contre les Maures. Mais Chimène n'entend pas céder, elle non plus, sur son honneur, et elle en appelle au duel judiciaire. Le duel judiciaire, une sorte de jugement de Dieu qu'une ordonnance de Philippe le Bel avait pourtant réglementé dès 1306 et que le Concile de Trente avait interdit. « Sire, dit-elle, permettez-moi de recourir aux armes, par le biais évidemment d'un champion. C'est par là que je me dois venger, dit-elle à l'acte 5, cède 5. » Alors on voit que le roi est très embêté, il n'est pas favorable à ce qu'il appelle une vieille coutume qui, sous couleur de punir un injuste attentat, dit-il, des meilleurs combattants affaiblit un État. Mais Don Diègue, père de Rodrigue, prend le parti de Chimène, donc c'est la logique aristocratique, féodale. Il prend le parti de ce code aristocratique dont le vœu désespéré de Chimène est l'expression. Épargner Rodrigue serait lui concéder un indigne privilège. De mauvais gré, le roi finit donc par céder, mais en mettant ses conditions à ce duel qu'il réprouve. Chimène épousera le vainqueur. Évidemment, il était malin, il avait compris l'issue du combat. Et la cour s'abstiendra de paraître un spectacle, sanglant procédé, qu'il réprouve. Lorsque finalement la nouvelle de la victoire de Rodrigue sur un pauvre champion de Chimène qui s'était un peu sacrifié, la nouvelle de la victoire parvient aux oreilles de Chimène, celle-ci fait encore semblant de résister à l'inclination de son amour pour l'assassin de son père. Elle finit cependant par accorder son pardon à Rodrigue à l'invitation pressante du roi. Pour respecter cependant les convenances, car le pauvre Don Gomez n'est toujours pas porté en terre, hein, c'est une unité tragique, Don Fernand accorde une année à Chimène pour accorder les scrupules de sa conscience au feu de sa passion, non sans envoyer à nouveau Rodrigue en mission de défense de l'État. Donc, qu'en pensez ? Les deux fonctions de la justice s'illustrent dans cette histoire. D'une part, la fonction courte de la compensation, dans sa traduction privée des duels, un soufflet contre un soufflet. Cette fonction courte se prolonge dans la fonction longue de réinsertion sociale. Rodrigue épousera Chimène qui lui pardonne. Rodrigue assume avec brio le service guerrier de l'État. Par ailleurs, les deux faces privées et publiques de la justice se trouvent ici intimement mêlées, comme en atteste notamment l'institution du duel judiciaire, vengeance privée encadrée par l'institution publique, et par le pardon encouragé par la nécessité de la raison d'État. Donc vous voyez, tout se mêle. C'est le propre de la littérature, c'est de complexifier, d'enchevêtrer les figures que par pédagogie je distingue. Venons-en alors, si vous le voulez bien, au modèle des figures 3 et 4, compenser ou se venger, ce que j'appelle le modèle du statu quo. Et je pose la question, une justice qui se borne à attribuer à chacun le sien, est-elle, oui ou non, à la hauteur de sa mission ? Nombreux sont les auteurs à répondre par la négative à cette question. C'est que, en se contentant de rétablir l'équilibre social un instant compromis, cette justice ne pénètre d'aucune façon dans les motivations des protagonistes, pas plus qu'elle ne s'interroge sur la justice intrinsèque de l'ordre qu'elle restaure. Et ici, je soumets à votre réflexion, comme une pièce pour votre séminaire, un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le différent » avec un « D » de Jean-François Lyotard, dans lequel il fait une distinction que je trouve absolument lumineuse entre le contentieux et le différend. Alors, le contentieux, c'est ce que nous connaissons, c'est le litige entre Pierre et Paul. Paul étant un plaignant qui a un dommage à faire valoir, il se réfère à une loi commune acceptée par les deux parties, et ce contentieux est tranché par un juge. Évidemment, celui qui est débouté ou celui qui est condamné à des dommages intérêts n'est pas content, mais il n'est pas révolté parce qu'il peut se référer lui aussi à cette loi commune, par exemple l'article 1382 du Code civil. Voilà, il y a un langage commun entre les protagonistes, il y a les mots pour le dire. Le différent est tout autre. Ici, nous n'avons plus un plaignant mais une victime. Ce n'est plus un dommage dont il fait état, mais un tort. La différence, c'est que le tort, il est irréparable, faute de langage commun, faute de code pour commensurer et pour comparer sur une même balance leurs situations respectives. Et dans un cas pareil, la personne qui est déboutée ne peut que se sentir à la fois dépossédée de son histoire, et injustement traitée, puisque, au fond, elle n'a pas eu les mots pour le dire. Les exemples historiques abondent, évidemment. Je pense notamment à ces quelques cas de jurisprudence dont on dispose en Amérique du Nord, qui ne sont pas tellement anciens, finalement, qui datent des années 1880, qui opposaient les cow-boys aux Indiens pour des questions de revendication territoriale. Dans les rares cas où les Indiens résistaient, et dans les cas rarissimes où leurs plaintes avaient été jusqu'en justice, ils se font débouter pour des raisons évidemment scandaleuses. On leur dit, mais où est votre acte notarial? Quels sont vos titres de propriété? Vous n'avez pas enclos votre terrain? Vous vivez sur cette terre comme des bêtes sauvages? Eh bien, allez paître plus loin. C'est vraiment ça qui est... Voilà. Et ça, ce type de situation historique n'est pas rare, et en littérature, on en trouve de nombreux exemples. Ce ne sont pas des exemples aussi extrêmes que j'ai traités. Je pense à François Mauriac, qui fut un auteur un peu oublié, mais qui fut quand même toute sa vie un observateur attentif de la vie judiciaire, tant de la justice civile que des assises, ou même de la justice politique, soit dans les années 45 lors de l'épuration, soit au lendemain de la guerre d'Algérie. Mauriac, qui était évidemment un écrivain de droite, a des positions de ce point de vue-là critiques et très, très, oui, très critiques à l'égard de la justice de son pays. Il a eu l'occasion de se persuader de ce que, je le cite, « la justice humaine est ce qu'il y a de plus horrible au monde, je le cite, quand elle n'est pas inspirée par la charité ». Là, c'est son langage catholique, mais on comprend ce qu'il veut dire lorsqu'elle n'est pas inspirée par un souci de se mettre à la place d'autrui, d'entrer dans sa logique. Une telle justice n'est dans ce cas qu'une manifestation de plus pour Mauriac, de la grande loi de l'entre-dévorement qui régit l'histoire. C'est que Mauriac est proche de Pascal, et le concept d'entre-dévorement est un concept pascalien. L'histoire ne serait que l'infinie répétition du crime initial, celui de Caïn. Plus concrètement, la justice apparaît à Mauriac impersonnelle, inhumaine et mécanique. Elle stigmatise, catalogue, réifie et retranche, pour cette raison qu'elle répugne à se mettre à la place du justiciable, et, a fortiori, s'avère incapable de lui pardonner. Une telle justice n'est dès lors que la reproduction de l'ordre établi. Qu'il s'agisse des privilèges des possédants dans l'ordre de la propriété privée, ou de l'hégémonie des plus forts dans la sphère publique. En compensant le déséquilibre apporté à l'ordre établi, cette justice renforce et légitime indéfiniment cet ordre. En se cantonnant dans une logique arithmétique d'équivalence des fautes, elle n'est que la version officielle et institutionnelle de la vengeance privée et du lynchage. Loin d'assurer les conditions d'une reconnaissance mutuelle de la victime et du coupable, cette forme de justice légaliste a pour fonction réelle d'exclure les individus censés ne pas savoir s'intégrer à l'ordre social. Et je répète, cette analyse est d'autant plus significative qu'elle émane d'un auteur peu suspect de militantisme de gauche. Mauriac qualifie cette justice en trompe-l'œil de justice de Pilate, Pilate, le consciencieux agent de l'État qui se lave les mains depuis 2000 ans. Une justice qui se contente de donner l'apparence de l'impartialité. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Mauriac, et bon, je vous propose Thérèse de Kérouge, 1927, il y a peut-être de meilleurs exemples. Thérèse de Kérouge, voilà une histoire qui illustre bien cette justice de Pilate, une justice qui se borne en réalité à se défausser sur la vengeance familiale privée, ce qui place l'œuvre un peu à la charnière de mes figures 3 et 4. En deux mots, de quoi s'agit-il ? Thérèse est une bourgeoise de province qui étouffe dans l'atmosphère confinée de sa belle famille, et, ce qui n'est pas bien évidemment, elle tente d'empoisonner son mari. Alors son crime échoue, et une instruction judiciaire est ouverte. Pour préserver l'honneur de la famille, le mari, soutenu par les siens, retire sa plainte en vue de tromper la justice, de sorte que, au terme d'une instruction bâclée, une ordonnance de non-lieu est rendue. Donc la justice intervient, mais sous la forme d'un non-lieu. Voilà donc Thérèse qui est rendue aux siens, rendue à la vengeance des siens, la vengeance, un plat qui se mange froid. En effet, de longues années de condamnation au silence l'attendent, enfermée qu'elle sera désormais dans la prison d'un acte qui n'aura reçu ni reconnaissance ni sanction officielle. Tout se passe en effet au terme de cette ordonnance de non-lieu, comme si en effet rien n'avait eu lieu, pas même l'intervention de la justice. Mais ce que révèle ce déni de justice, c'est en définitive sa complicité objective avec un ordre des familles dont toute l'œuvre de Mauriac dépeint la violente inhumanité. Je passe alors à la figure 4, celle de la justice privée, quand elle se limite à la simple fonction de compensation. Et je rappelle que durant des millénaires, l'humanité n'a réglé ses conflits qu'à la faveur de la vengeance clanique, familiale ou privée. Vous savez qu'il y a encore des régions, même en Europe, où on n'est pas totalement sorti de ce système. En Grèce classique encore, c'est un même terme, diké, qui désigne vengeance privée et justice. Souvent canalisée et modérée par un ensemble de règles coutumières, la vengeance ne s'avère en effet pas irrationnelle. Ce n'est pas la même chose que le déferlement vindicatoire. Elle n'est pas irrationnelle dans la mesure où elle rend coup pour coup, avec la même intensité et dans les mêmes formes. Elle s'inscrit dès lors à sa manière dans une logique contractuelle du donnant-donnant et reproduit la grande loi humaine de la réciprocité. Par ailleurs, on trouve par exemple sous la plume d'Aristote encore une sorte de valorisation du Timaoros, le protecteur de l'honneur, et le vengeur, mais c'est celui qui fait son devoir, qui protège l'honneur de la famille, donc dans des petites sociétés soudées par des codes d'honneur. Évidemment, le problème avec la vengeance, c'est que, faute d'intervention d'un tiers, il est malaisé de faire respecter ces équilibres. Et on devine que seront infinies les discussions sur la réalité de la faute ou l'ampleur du dommage. On a pu aussi soutenir que, de s'entretenir ainsi de génération en génération, la vengeance finissait par produire une haine qui se nourrissait d'elle-même. Elle nourrissait une violence en miroir qui pouvait toujours déraper et qu'on aurait beaucoup de mal à arrêter. Toujours est-il que ce thème de la vengeance parcourt la littérature universelle avec une extraordinaire récurrence. Bon nombre d'œuvres de Shakespeare, de Racine, de von Kleist au XIXe siècle, bon nombre de leurs œuvres y trouvent le meilleur de leur inspiration. Je me contenterai, faute de place, faute de temps, parfois faute de compétences, je me contenterai d'attirer l'attention sur une variante intéressante de cette quatrième figure, c'est la justice que l'on se fait à soi-même, notamment par le suicide. Comme si, déféré au tribunal de sa propre conscience, l'individu ne s'accordait ni alibi, ni circonstance atténuante. Alors je peux peut-être vous rappeler un roman somme toute amusant, de Dürrenmatt, intitulé « La panne ». Je vous raconte en deux mots de quoi il s'agit. Au cours d'une tournée en province, un représentant de commerce, à défaut de trouver place à l'hôtel, est hébergé par un magistrat à la retraite. Alors, il a l'air tout content, ce magistrat, parce que c'est justement le jour où il organise son dîner mensuel avec trois vieux compères du tribunal, un procureur et un avocat qui sont retraités comme lui. Alors, au cours du repas, s'improvise un jeu auquel nos trois amis sont bien rompus. On va jouer le jeu d'un procès fictif auquel l'hôte providentiel est invité à se prêter. Qu'aurait-il du reste à craindre? N'est-il pas un commerçant très ordinaire? Et pourtant, au fil du dîner bien arrosé, au fil d'un interrogatoire habilement mené, il apparaît que notre homme, donc le représentant de commerce, aurait pu être la cause, indirecte, mais probable, de l'accident cardiaque qui a emporté son patron. Je pense que le représentant de commerce était devenu l'amant de la femme du patron. Alors, l'avocat et le procureur se livrent à une joute passionnée, à mesure qu'on s'approche du dessert. Le tout se conclut d'une sentence de mort prononcée par le juge. Le jeu se termine dans la bonne humeur générale. Les trois collaborateurs de la justice, trop heureux d'avoir pu une fois encore se livrer à leur occupation favorite. Entre-temps, le représentant de commerce était fatigué, était monté se coucher. Il était convenu qu'on lui glisserait la sentence sous la porte. Mais lorsqu'il frappe à la porte de la chambre du commerçant pour lui signifier l'acte écrit de sa condamnation, ils le retrouveront pendu. Apparemment, la conscience de l'homme s'était révélée plus inflexible que la petite compagnie des professionnels du droit. Au registre de la justice que l'on se fait à soi-même, je vous invite à relire « Crime et châtiment » de Dostoïevski, et je vous rappelle cette question: qu'est-ce qui pousse l'étudiant meurtrier Raskolnikov, qu'est-ce qui le pousse à avouer son crime, alors que c'était un crime parfait, sinon le besoin d'avouer et par là même le désir de payer sa dette et ainsi réintégrer la société des hommes. J'en viens alors à mes modèles 5 et 6 qui concernent la fonction longue, donc la fonction du pardon, d'abord dans le domaine public, ensuite dans le domaine privé. Et je dis à propos du domaine public, parfois la réalité semble l'emporter sur la fiction. Quel meilleur exemple évoqué en effet pour illustrer un système étatique de justice qui renonce à se contenter de son rôle d'adjudication-rétribution classique en s'élevant au pardon, gage de réconciliation et de concorde? Quel meilleur exemple? En réalité, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'exemple littéraire. Si vous en trouvez un, je serais très content. Enfin, tout de même, l'exemple réel et concret mérite vraiment d'être étudié de très près. C'est la fameuse commission Vérité et Réconciliation mise en place en Afrique du Sud au lendemain de l'apartheid. Sans idéalisme ni angélisme, je crois que ça a cessé de bien fonctionner. Il y a une thèse à Saint-Louis qui est faite pour le moment sur ce sujet et qui montre que l'état de grâce est passé, le système ne fonctionne plus très bien, mais il a quand même fonctionné au moment où il devait fonctionner, c'est-à-dire au lendemain de l'apartheid. Et donc, c'est très intéressant d'étudier les ingrédients improbables de cette solution extrêmement délicate. Une vraie commission réconciliation, pas comme des commissions bidons qui n'ont jamais fonctionné en Amérique latine, mais une vraie commission vérité réconciliation doit combiner des aveux complets, ça c'est la fonction de véridiction, une réparation sur le plan civil, de dommages et intérêts, un pardon sollicité, un pardon se demande, il ne s'impose pas, et il n'est pas donné par les autorités, mais par les victimes, et finalement une amnistie pénale. Lorsque tous ces ingrédients sont réunis, une telle commission s'analyse à la fois comme un geste de mémoire et un pari sur l'avenir. En effet, le pardon qui s'y produit ne veut rien cacher du passé. Il veut assurer la pleine reconnaissance de la victime. Mais en même temps, il veut rendre crédible la perspective d'un autre avenir collectif qu'un futur de rancœur. Il permet aux deux parties de s'arracher à une espèce de destin de malheur et de violence en miroir. Je souligne au passage, et c'est un des rares cas où je le fais, l'importance du récit, c'était ma fonction de véridiction, l'importance du récit dans l'œuvre de justice. Il s'agit de reconstruire une relation des faits qui, à défaut d'être absolument exacte, on ne croit pas à l'exactitude dans ce domaine, comment pourrait-on dire toute la vérité, à défaut d'être vrai, au moins fasse sens pour les protagonistes et soit plus ou moins accepté par la communauté. En un mot, il s'agit de mettre des mots justes sur les faits, et ainsi de dire les responsabilités des uns et des autres. Je passe au volant, au volet privé, et je dis, reconnaissons cependant que le pardon est le plus souvent le fait des individus et de la justice privée. Souvent, du reste, ce pardon procède des défauts de la justice publique. Par exemple, lorsque les faits sont prescrits au terme de la loi. Ou alors que dans les cas des crimes de masse les plus graves, une véritable réparation est tout simplement impossible. Ou alors ce sont des hypothèses de déchéance, de dénaturation de la justice publique. Quelques exemples. Sous la plume d'un auteur radicalement utopique comme Tolstoï, le pardon est une exigence évangélique et c'est la seule réaction acceptable face au mal, dès lors que, pour lui, il appartient à Dieu seul de juger et que tout système humain qui s'y risquerait serait par nature corrupteur et lui-même criminogène. Je vous invite à lire à cet égard un de ses romans russes kilométriques de Tolstoï, donc Résurrection, qui est une des charges, je ne crois pas que j'en ai lu de plus violente, une analyse criminosociologique d'une violence extrême à l'égard du système pénal et pénitentiaire de la fin du régime des tsars, et l'ancêtre du goulag, avec une thèse vraiment radicale selon laquelle le système pénal et pénitentiaire est criminogène par nature. Il est pervers par nature, il ne peut générer que des effets pervers, et donc la seule alternative, c'est pour donc, cet auteur utopiste, le pardon évangélique. Autre exemple, un petit roman, je crois, très peu connu, de l'allemand Wickert, intitulé « Le juge ». Et cette fois-ci, le contexte, c'est l'Allemagne nazie. À la veille de l'entrée en guerre, un juge d'instruction découvre que le coupable de l'assassinat politique sur lequel il enquête n'est autre que son propre fils. Il ne tarde pas à le confondre, et assumant sa fonction de père autant que de juge, il persuade le fils, appelé, est-ce un hasard, Christian, il le persuade de se constituer prisonnier. Mais, dans l'Allemagne dévoyée donc des années 30, où le mal a pris la place du bien, il n'est personne pour le poursuivre. On le félicite plutôt d'avoir fait justice d'un opposant. Reste alors au père de se rendre, avec son fils Christian, auprès de ce qu'il appelle le tribunal suprême, c'est-à-dire les parents de la victime. Christian sera finalement pardonné par ceux-ci. Quant au juge, il adresse le lendemain sa lettre de démission à ses supérieurs, et les dernières lignes de cette lettre sont ainsi rédigées. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a place ni pour le droit, ni pour le juge. Mon troisième exemple est un petit roman de mère, très discuté dans toute la littérature anglo-américaine, les textes de droit et littérature. C'est « Billy Butt Marin » de Herman Melville. Ce petit roman suggère l'idée de la justice, cette fois-ci comme un mal nécessaire dans un monde marqué par l'universelle culpabilité du péché originel. Alors, en deux mots, de quoi s'agit-il ? Billy Butt est engagé de force, donc c'est un jeune marin, une sorte d'éphèbe, il y a toutes sortes de connotations homosexuelles derrière le texte, ça va lui jouer un vilain tour. Donc ce jeune et beau marin est engagé de force dans la marine de guerre anglaise à l'époque du Directoire, donc fin du XVIIIe siècle, et au lendemain d'une vague de mutinerie dans la marine anglaise, mutinerie qui avait laissé des traces. Alors dans ce contexte, il résiste à des avances, à caractère homosexuel, du capitaine d'armes du bateau, donc un sous-officier du bateau, qui va l'accuser à tort alors de mutinerie pour se venger de lui avoir résisté. Et Billy Butt, qui est un enfant du peuple, n'a pas les moyens de verbaliser sa prétention ou son grief. Et la seule manière qu'il a de se défendre, c'est d'envoyer un coup de poing au sous-officier. Par malchance, il tombe mal et le tue. Voilà. Dans le contexte que j'ai dit, de guerre, au lendemain d'une mutinerie, vous imaginez que le capitaine Vere, le capitaine du bateau, ne peut pas tolérer un acte de ce type-là, et il défère automatiquement Billy Butt devant un conseil de guerre improvisé que lui, le capitaine Vere, va présider. Il est présenté, ce capitaine Vere, comme le plus sage de la marine anglaise, c'est un humaniste, et il a très vite compris de quoi il retournait. Donc, pas un instant, il ne doute de l'innocence en tout cas de la pureté des intentions de Billy Butt, mais il n'y a évidemment pas d'autre issue dans le contexte que je viens de rappeler que la condamnation à mort, ce qui fait que le lendemain, à l'aube, Billy Butt sera exécuté. Alors, au premier degré, on peut lire cette fable comme une féroce critique de la justice militaire expéditive qui sciemment condamne à mort un innocent par égard pour la loi martiale et la discipline militaire. Mais Melville nous invite à dépasser cette première interprétation et nous invite, ce n'est jamais qu'une interprétation, hein, on peut en avoir d'autres, nous invite à une lecture christique de ce sacrifice du fils Billy par le père vers en expiation de la faute originelle qui pèse sur tous, innocents compris. Comment comprendre autrement, en effet, les dernières paroles de Billy Butt? Je cite, « Dieu bénisse le capitaine Vere. » Et Melville d'ajouter cette observation, c'est la dernière phrase du roman, tandis que le pauvre Billy Butt s'élève pendu au mât d'Artimon. Dernière phrase du livre, « L'Orient s'imprégnait d'une douce et glorieuse lumière, comme dans une vision mystique, la toison de l'anneau de Dieu. » Tout se passe ici comme si, dans cette atmosphère de miséricorde à l'égard du péché originel commun, Billy était amené à pardonner à la justice des hommes, comme si, figure christique, il assurait la rédemption de la faute universelle des marins, des militaires et des juges. Voilà. Finalement, nous arrivons aux figures 7 et 8. Donc là, aucune des deux fonctions ne sont remplies, c'est le modèle du déni de justice ou le modèle en défaut. On atteint ici le paroxysme de la dénaturation de l'institution, on touche aux limites de la déshumanisation. Le « il » du tiers institué déchoit de sa position tierce, selon diverses figures qui vont de la complaisance ordinaire à la perversion radicale chez Sartre. D'abord, ma figure 7, le domaine public. Lorsqu'une telle « justice » entre guillemets est rendue par des magistrats assermentés dans les formes légales et dans un cadre juridique, la corruption de l'institution est à son comble. La littérature, qui ne recule pas devant les inversions par passage à la limite, en livre d'innombrables exemples, un véritable jeu de massacre. Shakespeare, par exemple, dresse une impressionnante galerie de portraits de juges partiaux et vénaux directement intéressés à l'issue du procès, souvent parce qu'ils en sont eux-mêmes les coupables, le coupable qu'ils font semblant de poursuivre. Il y a une scène de ce genre dans Richard II, par exemple. Plus croustillant, on pourrait évoquer la figure d'Angelo, le mal nommé, mais qui fait l'ange fait la bête, dans Mesure pour mesure, Angelo qui arrive au pouvoir dans une Vienne imaginaire et dont le premier acte, c'est de restaurer un vieux texte qui condamnait à mort les actes de fornication. Alors, le premier qui tombe sous le coup de la nouvelle règle, enfin, de la règle réhabilitée, c'est un certain Claudio qui n'avait fait finalement qu'engrosser sa fiancée. Selon une certaine interprétation, il pouvait même déjà être marié. Et alors, c'est la jeune novice qui est la sœur de Claudio qui s'interpose. Et Angelo, le diabolique, va finalement proposer le salut de Claudio contre la vertu de la jeune sœur novice. Donc vous voyez, donc c'est que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, c'est mesure pour mesure. On pourrait aussi citer dans Le Marchand de Venise de Shakespeare le personnage de Portia, qui est très très souvent mal interprété. Le nombre, quand j'ai fait ce livre sur Shakespeare, le nombre de textes anglais que j'ai lus présentant Portia comme une nouvelle Antigone, comme l'expression même de la miséricorde, de l'équité, en anglais mercy, equity, etc., alors que c'est vraiment le comble du faucheton au féminin, si j'ose dire, puisque Portia est en réalité directement intéressée à la condamnation de Shylock, et elle parviendra à confondre le juif Shylock et à le faire très lourdement condamner grâce à un subterfuge et toutes ces belles paroles d'appel à l'équité et à la miséricorde, mercy, c'est en fait une forte hypocrisie. Ce qui me permet d'ailleurs de dire qu'il faut lire toutes ces pièces de Shakespeare toujours avec une double lunette. Il y a presque toujours deux langages chez Shakespeare. Un langage fait de préjugés qu'il servait aux public populaire qui venait une chope à la main et debout suivre cette pièce dans le théâtre du Globe. Et là, une pièce comme celle-là, est, Le Marchand de Venise est une pièce violemment antisémite, au premier degré. Mais pour les happy few qui peuvent quand même aller un petit peu plus loin et comprendre, en réalité, c'est une pièce, je trouve, pas du tout antisémite et qui, au contraire, déconstruit un certain langage bien pensant et qui montre que les chrétiens de Venise n'étaient pas du tout en reste en matière de violence. À propos, alors ça c'est plus drôle, c'est une pièce comique, de juge qui doit se juger lui-même, ça fait rire tout le monde, c'est La cruche cassée de von Kleist. Quelqu'un a tenté à la pudeur d'une jeune fille qui s'est défendue en cassant la cruche sur la tête de son agresseur, et tout le monde a compris de la première réplique parce que le juge apparaît en scène avec la tête bandée et il est très mal pris parce que pendant toute la pièce il doit instruire son propre procès. Ça nous fait rire, mais l'histoire d'Œdipe, la plus célèbre des tragédies, ne dit pas autre chose. L'histoire d'Œdipe, c'est l'histoire d'un juge, enfin, quelqu'un qui se croit très malin, il va résoudre les secrets de l'énigme, enfin les énigmes de la sphinx, de la sphinge, et en réalité, il est amené à découvrir l'horrible vérité, le coupable c'est lui. Je résiste pas aussi à évoquer au passage l'huître et les plaideurs de La Fontaine ou encore le chat, la belette et le petit lapin. Dans tous ces cas, nous avons affaire à des fables qui montrent que les juges, comme chez Rabelais, ne sont pas des personnages au-dessus de tout soupçon. Plus subtil, j'ai découvert récemment un roman intéressant, tout en nuances, tout en finesse, qui m'a été suggéré justement dans un séminaire organisé à Paris par Denis Salas et Antoine Garapon, qui était un séminaire avec des magistrats, c'était tout à fait passionnant. C'est un séminaire droit et littérature qui est très suivi par des magistrats, et où on leur demande de venir avec le livre qu'ils ont lu et qui les a frappés. Et une magistrate de province en France avait amené ce livre de l'auteur hongrois Sándor Márai, intitulé « Divorce à Buda ». C'était plein de finesse, je vous dis en deux mots de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'un juge hongrois au-dessus de tout soupçon, menant une vie exemplaire et qui était promis aux plus hautes fonctions judiciaires. Actuellement juge des divorces, il s'apprête à traiter le dossier d'un ancien camarade d'études. À sa grande surprise, celui-ci, un médecin connu, vient le trouver à son domicile un dimanche soir, veille du procès, pour se livrer à une confession fleuve. Il a tué sa femme quelques heures plus tôt. On apprend bientôt que l'incompréhension et le malentendu s'étaient installés dans leur ménage, l'épouse affectant une incompréhensible distance. Mais peu à peu se dévoile la vérité, elle sort de l'ombre. Cette épouse n'aurait jamais cessé d'être amoureuse du juge lui-même, qu'elle aurait rencontré en tout bien tout honneur, comme on dit dans ce cas-là, à quatre reprises quelques années plus tôt. Cinq fois au cours de cette soirée interminable, l'ami médecin meurtrier posera la question au juge. « As-tu toi aussi rêvé d'Anna? L'aimais-tu ?» Et lorsque le juge, tout à la fin de la nuit, finira par avouer que oui, il avait aussi pensé, on aura compris que depuis quelques heures déjà, ce juge avait abdiqué sa position tierce, le « il impartial » de la loi, et si l'audience du lendemain n'aura pas lieu puisque l'épouse est morte, c'est peut-être surtout que le doute s'est installé. Qui sommes-nous pour juger ? J'en viens au volet privé de cette justice dénaturée, et ici donc notre descente aux enfers se poursuit. J'ai trois figures à vous proposer. La première est un peu anodine, elle s'inscrit au simple registre de l'oubli et du renoncement, comme si un sommeil de lassitude ou d'impuissance s'était substitué à la justice. Je ne suis pas non plus spécialiste de Kundera, je livre cette hypothèse. C'est peut-être la clé qui permet de comprendre le singulier roman de Milan Kundera intitulé « La plaisanterie ». Roman dans lequel les terribles exactions du régime communiste en Europe de l'Est ne trouvent en définitive aucune verbalisation efficace, aucun traitement susceptible d'en réparer les ravages. Seul l'oubli, comme un voile létal, recouvre ce champ de ruines. Mais il faut se méfier de l'oubli, qui, lorsqu'il prend la forme du refoulement, conduit à de brusques retours du refoulé. un passé qui ne passe pas est le terreau le plus fécond des violences du lendemain. L'amnésie déçoit la justice dans un sens encore plus profond que ceux évoqués par la distinction de Paul Ricoeur. Pourquoi ? Parce que l'amnésie n'assure aucune reconnaissance aux faits. Elle traduit un déni de vérité ou même simplement de réalité en deçà du déni de justice. Donc la bonne amnistie ne doit jamais être une amnésie. Bon, ça c'était le stade 1, encore relativement anodin, l'oubli, l'impuissance, la démission. Très énigmatique, la justice selon Kafka. Il faut relire toute son œuvre qui ne parle que de ça. Toute son œuvre est une mise à l'épreuve ou mise en cause, je choisis les termes à dessein, mise à l'épreuve ou mise en cause de la loi. Parlons du procès, si vous voulez, le procès de Kafka, nous livre une autre vision de cette justice. Que révèlent en effet ces bribes absurdes et grotesques, ces bribes de procédures judiciaires auxquelles Joseph K. est confronté durant les 12 mois, très exactement, que dure l'instruction de son dossier? Ce sont non pas tant les dysfonctionnements de la justice ordinaire, Kafka est bien au-delà de ses critiques convenues. Selon moi, j'ai peu d'autres mots à mettre sur cette chose immonde, c'est-à-dire hors monde, ou obscène, c'est-à-dire hors scène, cette chose qui menace et dont il parle si souvent dans son journal. Je parle ici d'une justice immanente, très archaïque, magique, qui réveille des peurs les plus refoulées. Une justice immanente ou encore ce que j'appelle une loi de nécessité, une loi quasi naturelle, donc d'avant la distinction entre être et devoir être, norme et fait. Une loi de nécessité qui frappe sans motif l'innocent comme le coupable et s'inscrit dans une mentalité pré-logique, où la faute ne se distingue pas de l'erreur, de la folie, de la maladie, du malaise, de la maladresse et du malheur. Et je voudrais attirer votre attention à cet égard sur la traduction allemande. Non, pas la traduction allemande, c'est sur le terme allemand d'origine, Das Prozess. En allemand, semble-t-il, Das Prozess a deux sens, le sens judiciaire, juridictionnel que nous connaissons, mais aussi le sens de processus, de transformation. Et si je dis métamorphose, on est vraiment dans un registre kafkaïen. Le processus qui peut être un processus quasi morbide, à mi-chemin entre le normatif et le constatif, processus qui transforme progressivement l'innocent en coupable, et qui fait que, par exemple, c'est une bizarrerie de ce texte, mais qui s'explique à la lumière de cette hypothèse, la servante de l'avocat de Joseph K., à la fin de l'histoire, à un certain moment de la métamorphose ou du processus, trouve beau tous les accusés, comme si tout d'un coup une sorte de métamorphose physique s'opérait. Voilà. Il y a une hypothèse qu'il faudrait creuser. Je pense que ce avec quoi Kafka renoue dans son journal, dans ses terreurs intimes et dans ses projections fictives, ce avec quoi il renoue n'est pas si éloigné de l'amarsia des Grecs, c'est-à-dire de cette nébuleuse de faute, malheur, erreur, folie, dont précisément la tragédie grecque s'était affranchie, les Erinies. Et donc on aurait bouclé la boucle, si vous voulez, avec Kafka, on aurait une régression à ces choses originaires. Justice immanente. Et finalement, troisième variété, donc d'absence totale, de décomposition complète de la justice, bien sûr, sous la plume de Sade. Vous savez que c'est bien connu que dans cette œuvre la plus anti-juridique qu'il soit, on n'arrête pas de parler de droit sous deux formes. D'une part, abonde les règlements que tous les petits maîtres sadiques de Justine et de Juliette s'ingénie à composer pour le simple plaisir de rendre impossible leur exécution, hein, comme Caligula qui ordonnait une chose et son contraire, et puis aussi chez Sade, on juge beaucoup et surtout on condamne beaucoup sur la base justement de ses caprices, sur la base de ses règles inexécutables, et donc là encore, donc on a une sorte de justice inversée, et je vous invite à relire à cet égard-là le récit biblique de Sodome, où là aussi, c'est une des manifestations de la perversion de Sodome, où on juge à l'envers, en quelque sorte, à celui auquel on a volé, on vole encore plus, etc. Et bien sûr, on n'atteint pas du tout ici la fonction de triangulation dont je parlais, puisqu'il n'est pas question de se référer à une loi commune qui fait lien social. La caractéristique de la perversion, me semble-t-il, c'est ce que je croyais avoir redécouvert en travaillant sur Sade, la caractéristique de la perversion, c'est qu'on rejette la loi commune et qu'on lui substitue une loi marquée du sceau autiste ou solipsiste du sadique, de celui qui est le maître de ce jeu, dont l'impératif catégorique est joui aux dépens de n'importe qui et de n'importe quelle façon, explicitement chez Sade, qui invente d'ailleurs le néologisme de isolisme, le contraire de la règle d'or de la morale. J'en arrive à quelques conclusions, quelques considérations conclusives. D'abord, pour dire que le parcours qu'on vient de faire est évidemment largement incomplet, c'est seulement quelques pistes dans un immense continent. Je dirais que si mon tableau ne devait avoir qu'une seule utilité, ce serait un peu à l'image du tableau de Mendeleïev. Son utilité pourrait être seulement sa fonction heuristique, c'est-à-dire de mettre au travail la recherche. Les nombreuses cases vides qu'il recèle appellent à poursuivre la recherche. Cette recherche pourrait aussi, je dis un mot à cet égard-là, pourrait aussi nous amener à combiner les figures que j'ai soigneusement distinguées. Je ne résiste pas à vous soumettre un dernier exemple de figure du juge, mais elle est célèbre quand même, c'est la figure du juge Salomon, dont il est question au livre des Rois, chapitre 1, 3. Le jugement de Salomon, je suppose que tout le monde se rappelle en deux mots de quoi il s'agissait. Eh bien, en essayant d'analyser, je pense que ce récit combine, mélange les trois fonctions, vengeance, pardon et justice. On a la vengeance dans le chef de celle des deux prostituées qui a perdu son enfant, dont l'enfant est mort au cours de la nuit. Donc vengeance de cette mère endeuillée qui va consentir au jugement de Salomon, qui est de dire, mais puisque c'est comme ça, qu'on ne sait pas vous départager, vous les deux prostituées, qu'on coupe l'enfant en deux. Elle va consentir à la mort de cet enfant vivant dans un but très humain, finalement, de ressentiment ou de vengeance. Il faut aussi que l'autre mère, sa copine, ne puisse, elle, jouir de la possession de son enfant vivant. On a une figure du pardon dans le chef de cette autre mère, donc la mère de l'enfant qui était resté vivant, qui, bien qu'elle ait évidemment deviné le subterfuge intervenu pendant la nuit et dont elle est la victime, refuse le jugement de Salomon, refuse qu'on coupe en deux l'enfant, et elle accepte pour qu'il vive, elle accepte qu'il soit, qu'il lui échappe, afin que prévale une logique de vie. Enfin, on a une figure de justice dans le chef de Salomon lui-même, qui a su anticiper, en bon psychologue qu'il est, il a su anticiper la réaction de ces deux femmes, et notamment qui a assez bien compris la douleur irréparable de la première, qui était endeuillée, qui a osé faire le pari d'une justice absurde, parce que lui-même n'y croyait pas un instant, de couper l'enfant en deux, afin d'attribuer à chacun sa part, sum cuique tribuere. Il a osé faire le pari de cette justice absurde, donc c'est une espèce de démonstration par l'absurde, pour montrer que la vraie justice ne se réduisait jamais à une espèce de partage des parts, et que l'important c'était qu'émerge cette propriété émergente.